Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h15, André Berkoff.
Miracolo, miracolo, comment à Jérusalem, Emmanuel Macron a ressuscité Jacques Chirac. Nous vous raconterons dans le détail comment cela s'est passé. Nous allons parler aussi évidemment de l'immigration, des nouveaux chiffres, des chiffres surprises dont on ne parle pas beaucoup, mais évidemment... Ici à Sud Radio et à Berkoff dans tous les états, on en parle. Nous allons parler absolument de tout. Nous allons parler également de comment une journaliste, toujours en Jérusalem, c'est la ville de la résurrection, comment une journaliste a raconté comment Macron allait rencontrer Yasser Arafat. Nous avons rappelé comment le prince Charles est allé voir Greta. Les avocats Bobigny qui imitent les rugbymen de Nouvelle-Zélande et avec quel talent. Et enfin, nous allons recevoir Michel Herman, écrivain et philosophe, qui a écrit un livre remarquable qui nous concerne tous. Aimons-nous encore la liberté ? Oui ou non ? On en parlera avec vous aussi, auditeurs de Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Jérusalem, berceau des religions. Tout s'est passé à Jérusalem, tout est né à Jérusalem. Tout a commencé à Jérusalem, une ville habitée. Et à Jérusalem aussi, on peut retrouver les fantômes. Écoutez.
Berkoff dans tous ses états, le fait du jour.
Quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis...
Salvatore Adamo, effectivement, Salvatore, une très jolie chanson qui date d'il y a un demi-siècle. Sur Jérusalem. Et Jérusalem, effectivement, où Emmanuel Macron et plus d'une 40 chefs d'État se sont retrouvés à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz. Et effectivement, on sait, là-bas, il y a la forêt des justes, les martyrs, et c'est vraiment une ville extrêmement habitée. Et puis c'est, vous voyez, le mur des Lamentations, l'église du Saint-Sépulcre, la mosquée d'Al-Aqsa, les trois religions monothéistes sont ô combien représentées. Et donc, il y a eu, effectivement, une balade dans le vieux Jérusalem et dans Jérusalem ouest, il y a l'église Sainte-Anne et Emmanuel Macron était là, entouré de policiers, entouré de délégations, entouré de politiques. Et puis, à un moment donné, il s'est passé ceci. Écoutez.
We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke, nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful walk. You did a great job in the city, I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me, I can tell you, okay? So everybody respects the rule. Please.
Parole mâle et pleine de testostérone. Effectivement, l'église Sainte-Anne est un territoire français et Emmanuel Macron ne voulait pas que les policiers israéliens rentrent et le précèdent dans l'église Sainte-Anne. Mais ça rappelle en 1996, donc 24 ans auparavant, un autre président de la République passait au même endroit, pratiquement en tout cas dans la vieille cité de Jérusalem. Écoutez.
Il y avait encore comme problème. Je commence à en avoir assez. What do you want?
Me to go back to my plane and go back to France. Is that what you want? Then let them go. And let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation.
It's not a provocation.
Please, you stop now.
Voilà, voilà. À 25 ans d'intervalle, magnifique.
Taylor is rich.
Alors, exactement. Alors, la première question que je pose, 0826 300 300, à tous les auditeurs du Sud Radio, lequel parle le mieux anglais ? est-ce Chirac ou est-ce Macron ? Non, mais c'est une question importante parce que une chose qui m'a absolument frappé, c'est que quand Emmanuel Macron s'adresse à, et on l'a entendu dans les conférences de presse et autres, à Donald Trump ou à Boris Johnson, mais son anglais est beaucoup plus, beaucoup plus anglicisé. Je veux dire que l'accent est beaucoup mieux. Et là, il a fait, je ne dirais pas qu'il l'a fait exprès, mais il a retrouvé l'accent. Yes, it is not the rules, it is not the rules. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le Macron des banques, le Macron international, Start-up le Macron Nation. de l'élite mondialisée, ben il faisait Maurice Chevalier, quoi, ou à peu près.
Et quand on s'énerve, en général, on retrouve aussi son accent.
C'est
qu'on
possible.
Fasse semblant
c'est
ou pas
possible.
De s'énerver, je veux dire, mais on retrouve son accent.
C'est possible. Mais enfin, c'était assez amusant parce que, effectivement. Ça a provoqué ce que ça a provoqué. Alors effectivement, après, d'ailleurs, Emmanuel Macron s'est lui-même expliqué en disant non, c'était pas grave, ça s'est très bien passé, la sécurité était très bien, mais là, effectivement, j'avais rappelé un certain nombre de règles. Mais ce qui est très intéressant, et pourquoi on en parle, c'est que la réception international des deux altercations n'a pas du tout été reçu de la même façon. Quand en 1996 Chirac, le grand Chirac fait sa sortie, là, son coup d'humeur, ça a été très bien reçu dans les pays arabes en disant voilà, il tient tête, il fait. Et là, ça a été beaucoup moins bien reçu, au sens qu'on a dit, vous savez, bon, c'est bien, mais est-ce qu'il n'a pas quand même pensé à son illustre prédécesseur ? Est-ce qu'il n'a pas voulu aussi faire la même chose ? Alors, on va laisser évidemment à Emmanuel Macron le bénéfice du doute, on ne va pas affirmer des choses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours se rappeler de l'immortelle phrase de Karl Marx, l'histoire commence en tragédie et se répète en farce. Alors attention, donc c'est pas très grave tout ça, ce n'est pas une...
L'esclandre de Chirac était elle-même loin de la tragédie, hein. Il en avait rajouté un petit peu aussi.
C'est clair, mais à l'époque, c'est ça qui est très très intéressant, c'est que le contexte géopolitique était très très différent. Et en quoi il était très différent. Et c'est pour ça qu'on en a fait le fil du jour. Et il faut le dire, c'est ça au fond, au-delà de l'anecdote, parce que tout ça reste quand même de l'anecdote, c'est qu'en 96, l'Europe en général et la France en particulier, jouaient un rôle encore beaucoup plus important, malheureusement, qu'ils ne le jouent aujourd'hui. On voit très bien, à l'époque quand même, ça faisait partie, c'est-à-dire qu'il y avait encore au Liban, en Syrie, il n'y avait pas encore les professeurs français qui avaient quitté la Syrie complètement après Bachar el-Assad, et au moment de Bachar el-Assad, il y avait encore une présence très très forte de la France, et de l'Europe. Aujourd'hui, on voit très bien que dans ce qui se passe, eh bien, ce n'est plus du tout au niveau de l'Europe. Et c'est ça peut-être le principal. Pour moi, ce que ça a renvoyé, c'est que l'Europe, aujourd'hui, n'a plus du tout le rôle qu'elle jouait. Elle est devenue spectatrice au Moyen-Orient, même s'il y a une force Barkhane, là c'est en Afrique, même s'il y a encore, justement, non, mais des soldats ailleurs, il y a une présence, mais ça se passe entre l'Iran, entre les États-Unis d'Amérique, bien sûr, Trump, entre Poutine et évidemment l'axe sunnite des Émirats, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, etc. On sent très bien, et c'est pour ça que la sortie de Macron est passée, je ne dirais pas comme un P sur une toile cirée, parce que ce ne serait pas très gentil, mais enfin, quelque part, c'est vrai, on sent que l'Europe, et encore une fois, et la France, n'ont plus du tout, 25 ans après, le même rôle, et c'est pour ça qu'il faut signaler ça, et c'est dommage, et il est temps que l'Europe et la France reprennent leur place. N'oublions jamais que la France était une des grandes puissances membres de la Terre du Proche-Orient, notamment en Liban et en Syrie, et puis on a joué un rôle extrêmement important. Il est temps, justement, puisque Emmanuel Macron a parlé des chrétiens d'Orient, on en reparlera, il est temps quand même que la France reprenne sa place. Et ce n'est pas par là qu'elle la reprendra.
Juste une question pour ma culture générale. Ouais. Pourquoi l'église Sainte-Anne de Jérusalem est un territoire français ?
Parce qu'elle a été, vous savez, ce qu'on appelle les églises restent des territoires autonomes. Mm-hmm. Par exemple, la mosquée d'Al-Aqsa est sous la tutelle des musulmans. Jordanienne, exactement. Donc, c'est-à-dire
que la France a encore des églises à Jérusalem.
Voilà, et encore, il y a deux ou trois églises, je ne sais pas, à part Sainte-Anne à Jérusalem. C'est donc, ça fait partie du territoire français, comme une ambassade. C'est presque un territoire diplomatique.
Et nous remercions notre guide touristique. C'est Berkov dans tous ses états, vous l'avez bien reconnu sur Sud Radio. Est-ce que Macron est crédible quand il s'énerve à Jérusalem ? 0826 300 300, on vous attend, on vous donne la parole à 13h sur Sud Radio.
Sud Radio, André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je suis né.
Et madame, monsieur, merci, c'était la grande chanson de l'Eurovision, effectivement, sur l'immigration. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu quand même une information de Czech News, le média de
Libération.
Effectivement, du quotidien Libération.
Les fact-checkers de Libération.
Voilà. Et alors, Eurostat, qu'on ne peut contester, c'est l'Office statistique européen. L'Eurostat a récemment contacté les autorités françaises pour leur signifier que depuis plusieurs années, ces autorités françaises fournissaient, c'est quand même assez grave ça, c'est quand même assez préoccupant, fournissaient à l'Office statistique européen des données faussées sur le nombre de personnes déposant une demande d'asile en France. Alors, il parlait, vous savez, c'est la fameuse procédure de Dublin. C'est-à-dire que ceux qui demandent la nationalité d'un pays, enfin la nationalité, le droit d'asile dans le pays le plus proche, et ceux qui requièrent l'asile, vous savez, auprès d'un pays européen, après être d'entrée dans l'Union européenne par le biais d'un autre pays. Donc l'Italie, la Grèce et
vous entrez en Grèce et vous arrivez en France.
Voilà, et vous arrivez en France. Bon. Et d'après Eurostat, checké par Libération, chaque mois, ce seraient des milliers de personnes qui ne seraient pas intégrées, donc pas comptabilisées, au total des demandes d'asile déposées en France. C'est quand même, ça biaise les comparaisons. Alors ça, c'est très très grave. Il dit, les directives demandent explicitement aux pays de compter les candidats soumis à la procédure de Dublin. Nous avons été informés de ce problème dans le passé, en 2009. Vous voyez, c'est pas nouveau. Mais nous ne savions pas que cette question se posait encore aujourd'hui à la France. 10 ans après, ça n'a pas été résolu. Alors la France dit non. On a transmis, nous, les données. Les éléments de recueil qu'on a ne permettent pas de répondre à l'ensemble des critères d'Eurostat, dit la Direction Générale des étrangers en France. Et ils disent, c'est quand même encore une fois très préoccupant, un spécialiste confirme l'état déplorable de l'appareil statistique français, mais note également que la pratique reflète aussi la vision française, selon laquelle les Dublinés ne sont pas des demandeurs d'asile. C'est-à-dire que, en fait, ils sont arrivés, n'est-ce pas, les Dublinés, ils sont arrivés par
c'est
l'Italie,
moche, d'ailleurs,
par la
mot,
Grèce, c'est, oui, c'est le procédure de Dublin, c'est vrai, pas très joli, et ils arrivent en France, et bien on ne les comptabilise pas. Alors c'est quand même grave, c'est quand même très très grave, parce que, vous savez, alors là, le ministère de l'Intérieur, là c'est français, a révélé que le nombre de demandes d'asile déposées en France en 2019 se montait à 132 614, soit une hausse de 7,3%. C'est quand même énorme, 7,3% de plus qu'en 2018. Alors, il dit une anomalie concernant les migrants géorgiens et albanais. Alors c'est ça aussi, parce qu'il y a les pays en guerre, on le sait, mais il y a les migrants de Géorgie et d'Albanie, et ils viennent en demandeurs d'asile, alors que leurs pays d'origine sont considérés comme sûrs et pas du tout pays en guerre. Il y a quand même quelque chose, et ce n'est pas être d'un côté ou d'un bord politique ou autre, et ne pas se faire étiqueter, quand on dit qu'il y a une espèce d'extraordinaire open bar et passoire sur cette histoire d'immigration auquel personne ne contrôle vraiment, qu'on a pas les vrais chiffres, et quand vous voyez, c'est un journal qui n'est pas classé à droite, Libération, hein, ou l'extrême
non, pas
droite.
Trop.
Pas vraiment. Eh bien, quand on en arrive là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que ce que ça entraîne, on ne va pas reparler des chocs de culture, des civilisations, des frais, des demandes de frais, de tout ce que ça pèse. Et ils ne sont pas capables de contrôler qu'il n'y a aucun contrôle là-dessus. Ça me paraît plus que préoccupant. Ça me paraît très grave.
Est-ce que vous aussi, ça vous inquiète, ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas grave? Dans tous les cas, 0826 300 300. Berkoff attend vos réactions et votre avis. On vous donne la parole à 13h sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio. Berkoff dans tous ses états.
Dans tous mes états, et comment dans tous mes états? Comment ne pas être dans tous ces états avec ce qui se passe à Jérusalem, à Paris et ailleurs? On va vous en parler tout de suite.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour.
Any more than you or I, they're just ghosts inside dreams of a life that we don't know.
Un film du merveilleux réalisateur Jim Jarmusch, Dead Don't Die, les morts ne meurent pas. Eh bien, vous savez combien c'est vrai, c'est tellement vrai. Regardez, à Jérusalem, on revient à Jérusalem, on revient toujours à Jérusalem. À Jérusalem, on vous l'a dit, Macron a rencontré Chirac. Chirac existe, Macron l'a rencontré et il a mis ses pas dans les pas de son père. Eh bien, quelqu'un d'autre a rencontré quelqu'un d'autre aussi. C'était sur BFM TV hier. Écoutez.
Emmanuel Macron qui a pris le soin de rencontrer le Premier ministre israélien et le président israélien ce matin, qui rencontrera cet après-midi Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne. Une position équilibrée donc, et un appel à la paix et au dialogue entre les différentes communautés.
Ah, c'est vrai que c'est une, c'est magnifique. Non, non, c'est vrai que c'est un appel à la paix. C'est vrai, Yasser Arafat, petit détail, est mort en 2004, il y a un peu plus de 15 ans. Enfin, écoutez,
ça peut arriver. Encore,
pas que ça peut arriver. Oui, non, non, mais on va pas accabler qui que ce soit. Non, non, mais à Jérusalem, encore une fois, ce sont les résurrections.
Oui, c'est sûr.
Il y a quelqu'un qui a ressuscité au bout de 3 jours. Il n'y a pas de raison que Yasser Arafat ne le fasse pas. Mais vous savez, moi, ça me fait rêver, ça. Quand ça arrive, vous savez, ça arrive à tout le monde, des choses comme ça. Mais là, c'était très beau parce que c'était à Jérusalem et c'est quelqu'un qui est mort il y a 15 ans. Mais je me disais, mais ce serait formidable. Imaginez que Donald Trump arrive en France et bien il rencontre Charles de Gaulle.
Ah,
mais
oui.
Quelle rencontre! Imaginez qu'il allait à Londres et il rencontre
Churchill.
Formidable. Et moi, je trouve qu'on devrait créer, ça c'est ce que j'appelle les jolies fake news. Les fake news du côté Belle au bois dormant, du côté Alice au pays des merveilles,
oui,
du côté Disneyland, ça me plaît.
Oui, c'est écoutez, qui nous font rêver, nous
voilà, voilà, voilà. Et c'est évident qu'avec Emmanuel Macron, d'ailleurs ce que j'aurais aimé, c'est que Emmanuel Macron rencontrant Yasser Arafat, on voit Yasser Arafat gagner. Wallahi, I am very, very glad to meet you, Mr. Macron. Mr. Macron, I love France. You know, and you have a very good position. Well, Mr. Arafat, I love you. Il aurait dit, oh, Mr. Arafat, I love you. Est-ce qu'il aurait retrouvé son anglais de chez Rothschild et de l'élite mondialisée ou pas? C'est une vraie question.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones.
C'est la journée anglophone aujourd'hui, hein?
C'est vrai, c'est non seulement la journée anglophone, mais la journée Greta. Vous savez qu'hier, ça a été le duel de géants au sommet. Donald Trump contre Greta Thunberg. Et les poids lourds, un véritable championnat du monde. Parce que, évidemment, Trump, comme d'habitude, fidèle à son côté climato-sceptique, a fustigé à Davos les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions d'apocalypse. Et évidemment, Greta Thunberg a dit « Oui, oui, notre maison brûle toujours. Nous vous disons qu'il faut paniquer. Vous n'avez rien fait pour le climat. » Ça continue. Mais alors, il y a eu un moment magnifique. C'est ça que j'adore. C'est les contradictions. Les contradictions. Vous savez, toute conscience malheureuse s'empêtre dans ces contradictions. Et le prince Charles, c'est le pauvre prince Charles, vous savez qu'il attend depuis 20 ans de venir roi d'Angleterre.
Au moins.
Eh ben non, non. Elisabeth est là. Elle est toujours là. Mais enfin, prince Charles, comme ça, il fait des tours.
Alors, il a acheté sa couronne en viager.
En viager, oui, le viager, ça risque de durer. Et il s'est rendu à Davos pour rencontrer Greta Thunberg, Charles d'Angleterre, le prince Charles d'Angleterre. Et évidemment, il a pris quoi? Ben, il a pris un jet privé. Donc, il est allé en jet privé, il est allé à Davos. Et c'est intéressant parce que je ne vous dirai pas combien de CO2, d'émissions de CO2, mais le jet privé. Voilà, c'est magnifique. Et il a dit, oui, je vais voir Greta Thunberg, l'extraordinaire symbole, le magnifique symbole de la lutte contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, dit le prince Charles, nous n'avons plus que 10 ans pour sauver la planète. En attendant, eh ben, on utilise l'avion.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout une lutte entre Clémence Oudiakova et Jean-Marie Bordry.
La pauvre.
Ils sont en train de s'étriper, le pauvre, sont en train de s'étriper dans le studio de Sud Radio. C'est le fameux AK, vous le connaissez tous, de l'équipe de rugby Nouvelle-Zélande, le fameux AK. Mais il n'y a pas qu'en Nouvelle-Zélande qu'on fait le AK. On le fait aussi ailleurs. Écoutez.
Oh là, non.
Alors, Alors, vous allez me dire, c'est pas tout à fait le même accent. Eh oui, ce sont les avocates de Bobigny, c'est surtout une majorité de femmes en Seine-Saint-Denis, eh ben, contre Belloubet et contre les retraites, leurs retraites, etc. Voilà. Eh bien, on utilise, vous voyez, toutes les armes sont bonnes, dont un AK, le AK de la contestation des avocats à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Il y a eu aussi les écoutiers en colère, il y a eu tout ça. Enfin, ça continue avec les jets de robes, etc. Vous voyez, tout ça, c'est bien. Mais maintenant, on va parler de la liberté.
Et on va en parler tout de suite avec l'invité d'André Berkoff. Auparavant, vous nous appelez, hein, 0826 300 300. Est-ce que vous soutenez toutes ces professions qui sont en grève, notamment demain, contre la réforme des retraites, que ce soit des égoutiers, que ce soit des avocats, que ce soit tous les autres? Vous nous appelez, on vous donnera la parole à partir de 13h sur Sud Radio.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Mais auparavant, on accueille l'invité, André Berkoff, Michel Herman, écrivain, philosophe, professeur à l'Université de Bourgogne et auteur de ce livre « Aimons-nous encore la liberté ?» C'est publié chez Plon.
Et oui, c'est une question pratiquement shakespearienne. Bonjour Michel Herman.
Bonjour André Berkoff.
D'abord, moi je suis content. Vous savez, quelqu'un, je vais vous dire, j'ai lu votre bibliographie, et quelqu'un qui a écrit 6 livres sur Proust ne peut pas être complètement mauvais.
Et je vous remercie.
Effectivement, quand j'ai lu votre livre, je m'en suis absolument convaincu. Non, c'est très bien de parler de ce qui préoccupe beaucoup, et on en parle beaucoup, c'est que, est-ce qu'on n'est pas en train de se prendre, ce pays des Lumières, pays de la Liberté, pays de la Contestation, pays de Voltaire, etc., de des proches de Coluche, enfin, on ne va pas revenir, on ne va pas citer tout le monde, vous en parlez dans votre livre. Et je me suis demandé, d'ailleurs, je vais vous demander, vous avez mis « Aimons-nous encore la liberté ?» avec un point d'interrogation. Sure. Est-ce qu'on n'en est pas presque au stade où cette liberté, alors je vais être un peu pessimiste, n'est pas en train de nous quitter? Parce que, effectivement, moi je suis d'un âge aussi d'une génération qui est connue, les Desproges, les Coluche, etc., etc., et puis les Harakiri, hein, rappelons-nous tout cela, où on blasphémait comme on voulait, où il n'y avait pas, on ne se faisait pas tuer quand on mettait telle ou telle caricature, on ne se faisait pas massacrer. Vous posez parfaitement le problème. Mais alors, c'est quoi aujourd'hui la liberté, Michel Herman?
Vous savez, la liberté, c'est d'abord un mot. Et c'est un mot que l'on n'entend plus aujourd'hui. Le mot liberté est très peu dans la bouche des politiques.
C'est vrai.
C'est la première constatation. Oui. Moi, ce qui m'a frappé lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette question, enfin, cette question s'est en quelque sorte imposée à moi, à ma réflexion de philosophe sur le monde actuel, je me suis rendu compte que c'est plutôt les mots censure, enfin, les mots illibéralisme, enfin, des mots comme ça que l'on entend. C'est un mot que l'on n'entend plus, et c'est pourtant peut-être l'un des plus beaux mots de la devise républicaine.
Vous avez cité Éluard dans votre livre, « Liberté, j'écris ton nom ».«
Liberté, j'écris ton nom », je crois qu'aujourd'hui, on n'ose pas le barrer. Hein, mais on n'ose plus l'écrire, on ne sait plus l'écrire. Alors on n'ose pas le barrer parce que la liberté reste tout de même une sorte de mythe fondateur. Non seulement de la société française, mais également de l'esprit français, de la culture française.
Et puis c'est quand même l'un des trois mots.
C'est l'un des trois mots de la devise, ouais. Républicaine. Mais enfin, les grands, je dirais, les grands héros de la liberté, est-ce que nous les lisons encore? Je ne crois pas. Est-ce que nous lisons encore Rabelais? Je ne crois pas. Est-ce que nous lisons encore Hugo? On parle beaucoup de Hugo, bien sûr, sans doute l'écrivain patrimonial français, comme le dit dans un livre récent Régis Debray. Est-ce qu'on le lit beaucoup? J'en suis pas très sûr. On entend son nom, mais on ne lit pas beaucoup son œuvre. L'absence de la liberté, ou la manière dont la liberté est un peu estompée, alors que l'on a l'impression de disposer de toutes les libertés. Bon, oui. Cette absence de la liberté, c'est aussi une absence un malaise dans la transmission de la culture qui est la nôtre.
Et dans la pratique de cette liberté. Justement, vous êtes écrivain philosophe, vous êtes professeur à l'Université de Bourgogne, Michel Herman. Est-ce que ce n'est pas aussi, parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi, ça s'est un peu estompé, en tout cas. Est-ce que aussi, peut-être dans les écoles et ailleurs, on n'enseigne plus la liberté, ou pas vraiment, ou pas tellement? Est-ce que vous ne pensez pas que, déjà, là, il y a quelque chose qui devrait être beaucoup plus enseigné, beaucoup plus mis en lumière, je dirais?
Ben oui, le mot lumière, c'est le mot, effectivement. Hein. La liberté telle que nous la connaissons, du moins politiquement et socialement. Qu'est-ce que c'est à l'origine? Ben, c'est les Lumières, c'est le mot de Kant, « pense par toi-même ouais. ». Et ça se traduit par la notion d'autonomie. Hein. Une notion que l'on entend d'ailleurs, hein, l'autonomie des malades, des personnes âgées, l'autonomie des enfants, etc., dans l'éducation. On entend le mot autonomie, mais on n'entend pas du tout le mot liberté. Mais cela dit, l'autonomie, politiquement, elle est protégée par quoi? Par des institutions, par ouais. des lois. Oui. C'est la grande leçon de la Révolution française, je veux dire, de la Révolution des droits de l'homme de 89. Hein. Les lois vont protéger l'autonomie, c'est-à-dire la raison. Et la liberté de l'individu.
Mais, oui,
mais ça, on ne l'enseigne plus.
On l'entend pas. Oui,
ça, on ne l'enseigne plus.
On l'enseigne plus. C'est ça. Et est-ce qu'on enseigne encore, vous allez me dire, l'esprit critique ? Ce qu'on appelle l'esprit critique.
Alors, c'est une vaste question que vous posez. Là, c'est le professeur en moi qui l'entend. Et je dois vous dire que être professeur, quel que soit l'endroit où l'on est, hein, qu'on soit à l'école ou à l'université, y a quelque chose un peu d'une vocation, si vous voulez. Enfin, moi, j'ai fait aussi ce métier, une sorte de vocation. Or, je dois vous dire que dans le domaine de la philosophie et des lettres, je suis un professeur pas très heureux aujourd'hui. Hein, disons, depuis une vingtaine d'années, le quantum de connaissances a tout de même beaucoup diminué. Donc je crois qu'effectivement, il y a quelque chose que l'on n'enseigne plus, c'est quelque chose qui appartient, enfin que l'on enseigne marginalement, c'est quelque chose qui appartient à ce qui a fait notre culture, et qu'aujourd'hui, on considère un peu, comme secondaire.
Comme un œillet sur la boutonnière, ou presque.
Oui, comme un œillet sur la boutonnière, c'est une bonne définition. Mais je pensais à un événement qui m'avait, moi, beaucoup choqué, et je vous le dis, rendu malheureux. Il y a quelques années, je crois 5, 6, 7 ans, c'était la ministre des Universités de François Hollande qui avait déclaré que l'université française devait se mettre à faire des cours en anglais un peu tous azimuts. Sinon, disait-elle, je cite, hein, « sinon on va se retrouver à trois autour d'une table à parler de Proust ». Rendez compte.
Ah, magnifique, oui.
Rendez compte. Quand je dis magnifique, je veux dire, l'un des plus grands écrivains français, considéré comme ça, comme un exemple de bas étage, pour nous dire, attendez, mettez-vous à la mondialisation et à la langue anglaise. C'est tout de même étonnant. Donc, c'est étonnant. Moi, ça n'a pas étonné. Mais le fait même de l'entendre dans la bouche d'un ministre m'a rendu extrêmement malheureux.
Et on a vu combien l'anglais était en vigueur, notamment à Jérusalem, chez nos présidents. On continue avec vous et restez avec nous. On va parler de la liberté et de cette chose fondamentale, la liberté, et comment effectivement la défendre.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le face-à-face.
Et nous continuons la conversation avec Michel Herrmann, un livre remarquable, Aimons-nous encore la liberté, qui est paru chez Plon. Un livre qui défend, effectivement, pour moi, l'une des vertus les plus importantes. D'abord, effectivement, se nourrir, on ne peut rien faire avec le ventre vide, mais après, la liberté. Et Michel Herrmann, ce que je voulais vous demander en continuant cette conversation, est-ce que ce n'est pas l'autocensure ou la servitude volontaire qui est en train aujourd'hui de prendre le pas sur le reste?
Oui, je pense qu'on est plus dans une époque de servitude volontaire que de liberté. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans cette époque? Les raisons sont multiples. J'ai essayé de les cerner, elles sont multiples. Alors il y a une raison, me semble-t-il, hein, qui, je ne sais pas si elle les domine toutes, mais c'est que nous sommes dans une société de peur et d'angoisse. Et une société de peur et d'angoisse, faisons-la débuter au septembre 2001. Bon, le monde a changé, l'Occident en tous les cas, hein, a changé à ce moment-là. Et passé, comme le disait l'excellent Pierre Hassner, il est passé du monde, tout petit mot philosophique, hein, du monde de Kant, c'est-à-dire le monde des Lumières, hein, le monde, bon, même si elle n'éclaire pas toujours tout. Le monde des Lumières au monde de la peur, au monde de Hobbes, au monde de, on est dans ce monde-là. Donc, je pense que dans un monde comme ça, les gens se replient sur le conformisme.
Ils ont peur de sortir des sentiers battus, des balises, etc.
On a peur de... Oui, il y a un climat globalement de peur et d'angoisse économique due à la mondialisation, la célébration de la mondialisation par les sociétés libérales pendant un certain temps. Depuis 2-3 ans, il y a un petit retour en arrière. Mais bon, donc il y a cette explication-là. Il y a une autre explication, un petit peu plus, si vous voulez, historique. Moi, il m'arrive de penser qu'on est à la fin d'un cycle. D'ailleurs, que le cycle de la liberté... Vous savez, la liberté, pour moi, la liberté, c'est un sentiment. Hein. Bon, c'est un sentiment, ensuite, c'est une manière d'agir, et puis ce sont des lois.
Volonté aussi.
Et c'est une volonté. Il n'y a pas de liberté sans volonté, et sans responsabilité.
Absolument.
Voilà. Et ce qu'on appelle la liberté, encore un tout petit mot philosophique, mais relativement simple, Descartes disait, c'est une volonté libre. La liberté, c'est une volonté libre. Donc, ça s'ancre dans la
alors,
volonté, donc dans la responsabilité.
Ce cycle s'achève.
Ce cycle qui a commencé, finalement, avec le XVIIe siècle, s'achève sans doute parce que une sorte de fatigue. une sorte de fatigue d'être libre.
Et est-ce qu'il n'y a pas fatigue, oui. Vous voulez dire que fatigue, c'est-à-dire qu'on a envie d'autre chose, on ne voit pas les solutions, mais vous parlez quand même beaucoup de ce qui a apparu, et on l'a vu, c'est ce qu'on va appeler la tyrannie des minorités.
Oui.
C'est-à-dire que ce qui se passe aussi, et pourtant la liberté, ce n'est pas le conformisme, hein, ce n'est pas ça. Parce que regardez, au sein d'une population, vous avez raison de parler de la peur. Je veux dire, c'est quand on pense à l'époque des Harakiri, des Desproges, des Coluche et autres, des Janson, etc., on voit les films aussi, les films qu'on ne voit plus aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le côté, en disant oui, mais vous attentez, moi, minoritaire, vous attentez à ma liberté en disant ça et ça et ça, donc je vous l'interdis. La norme, c'est moi. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mutation de la norme, enfin, ce que vous voulez dire la norme?
Oui, je crois qu'en un mot, la valorisation des différences exclut la différence. Alors, pour essayer de vous répondre le plus précisément possible, je pense qu'on vit une époque de difficultés dans la relation à autrui. Ça a toujours été une question sociale, évidemment. Et vous savez, c'est la fameuse phrase de Sartre, hein, « L'enfer, c'est les autres ».
Oui.
Et quand Sartre disait ça, il disait pas que l'autre est infernal. Il disait tout simplement qu'on a une condition, on n'est pas seul, on n'est pas libre seul. Il y a une sorte de condition humaine qui fait qu'on existe en partie dans le regard des autres. Et que parfois, le regard des autres, il est peut-être trop prégnant, trop paralysant. Mais toute l'histoire de la philosophie, et c'est là aussi où il faudrait parfois reparler de l'histoire de la philosophie, toute l'histoire de la philosophie depuis les Grecs, jusqu'à la psychologie positive d'aujourd'hui, veut dire quoi ? Veut dire qu'il faut arriver à s'accommoder du regard des autres. Et tout l'esprit de la civilisation, toute la civilisation des mœurs, a poussé à cela, à essayer de faire en sorte que les hommes vivent finalement, pas forcément en très bonne entente.
Non, mais au moins mais
en se tolérant. Bon. Aujourd'hui, on est dans une période totalement intolérante, c'est-à-dire qu'on considère au fond que mon droit, moi, de petit individu narcissisé, je dois faire ça parce que je le vaux bien, comme dit vous savez, un slogan publicitaire déjà ancien, mais qui, à mon avis, dit beaucoup de choses. Et à partir de là, on valorise son petit moi, son moi idéal.
Ça.
Et non pas, comme dirait la psy, son idéal du moi. Son moi idéal. L'idéal du moi, c'est un idéal qui se négocie avec autre.
Et puis voilà. Non, ce qui est étonnant, c'est moi qui fais la norme, et si vous n'êtes pas content, c'est que vous êtes raciste,
c'est que vous êtes
xénophobe, raciste, machin, voilà, etc.
Alors ça, c'est la figure de la victime.
La figure de la victime,
nouveau prolétaire. À un moment, la politique se faisait, en gros, par les affects. Il y a les prolétaires, ils sont les vaincus.
Ils sont
à un moment les vaincus de l'industrialisation. Il faut arriver à faire quelque chose pour eux. Ce que tous les gouvernements, même parfois les plus réactionnaires, ont fait, d'une façon ou d'une autre.
Bien sûr. Hein.
Parce que l'État, c'est quand même à un moment de protéger. Bon. Aujourd'hui, c'est la victime. Il n'y a plus de prolétaires, il n'y a plus que des victimes. Et donc, il y a une sorte de mécanique. Moralisatrice qui fait qu'on moralise les émotions. Ouais. Je suis touché par, je sais pas, le fait que tel ou tel individu ou tel groupe d'individus sont maltraités, ne sont pas traités comme ils devraient l'être. Et alors
le corollaire, c'est moi j'ai droit, j'ai pas de devoir, voilà. Évidemment, j'ai le droit. Droit à l'enfant, droit à ceci, tout ça.
Absolument.
Et si vous n'êtes pas d'accord, vous m'agressez. C'est-à-dire que par exemple, si osez dire quelque chose qui est hors balise et hors poteau de signalisation, eh bien, vous m'agressez.
On entend ça tous les jours. On retourne la charge de la preuve, si vous voulez, en quelque sorte. Voilà. Et c'est ça. Donc, ça vient du monde anglo-saxon. Hein. Ça vient, entre autres, des campus américains. Et moi, ce qui me frappe, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que l'on accepte ça, comme ça ? Pourquoi est-ce que la société française accepte ça ? Vous savez, pourquoi est-ce que les citoyens... Il y a un très joli mot de Régis Debray qui dit le citoyen, c'est l'homme sans étiquette. Tout est dit.
Vous le citez dans votre livre.
Voilà, je le cite dans mon livre. Bon, eh bien, au contraire, les communautés, ce sont des étiquettes. Et ce sont des étiquettes qui s'opposent, sont des marques, en quelque sorte.
Voilà, elles s'enferment. Et c'est tel supermarché qui dit, moi, j'ai la norme, et si vous osez dire que mon produit n'est pas bon, c'est que vous êtes raciste.
Eh bien, voilà, si vous êtes raciste, etc., vous ne respectez pas, au fond, la concurrence libre et non faussée.
Mais comment ça se fait que... Alors, comment il se fait ? Bon, on ne va pas tout développer, mais comment ça se fait que le pays des Lumières, le pays qui a accepté pendant très longtemps, en tout cas, depuis le XVIIe siècle, une espèce de... Vous savez, c'était Voltaire qui disait, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour que, etc. Comment il se fait qu'on a transformé ça en disant, ah non, moi, c'est GPA, etc., et si vous n'êtes pas d'accord, c'est vous êtes un salaud de raciste. Qu'est-ce qui a... Ce renversement est quand même assez...
Je crois que c'est la mondialisation finalement des émotions et de la morale qui vient du monde anglo-saxon. Je crois que c'est ça. C'est le modèle anglo-saxon, le modèle communautaire, qui peu à peu a prévalu. La chose n'est pas nouvelle. On voit ce mouvement se prendre son essor dans les années 80-90 déjà. Mmh. Bon,
la déconstruction, si vous parlez de la déconstruction.
C'est aussi, effectivement, la déconstruction. Et donc, c'est ce qu'à un moment en France, ça a été le débat il y a une quinzaine d'années entre les républicains et les démocrates. Les républicains, au fond, préserver le modèle français qui est un modèle national où le citoyen n'a pas d'étiquette, et puis le modèle anglo-saxon, c'est la lutte des étiquettes, la lutte finalement des communautés, comme si c'était des sociétés commerciales, comme si c'était en quelque sorte non seulement des étiquettes mais des
marques. Auchan contre Carrefour.
Auchan contre Carrefour, voilà. C'est un peu ça. Et je crois que ce modèle-là, qui est un modèle plutôt, disons, de société protestante, tend malheureusement à s'imposer dans une partie du monde occidental.
Et vous croyez que c'est inéluctable ? Je parle pour la France ou pour l'Europe ?
Moi, il m'arrive d'être pessimiste, il m'arrive d'être optimiste, si vous voulez, je m'épanouis en relisant Voltaire, lisant Rabelais, qui était le harakiri de l'époque. Et je me dis que la culture française a tout de même un ADN extrêmement puissant. Et que cet ADN, il est peut-être possible, effectivement, que peu à peu on réagisse. On voit tout de même des réactions politiques. Elles sont assez récentes. Oui. Pour moi, elles ont quelques années. Elles sont assez récentes.
Il y a des gens aujourd'hui qu'on entend, mais qu'on ne pouvait pas entendre il y a encore quelques années.
C'est ça.
Parce qu'ils étaient marqués du sceau de l'infamie réactionnaire.
Voilà, absolument.
Maintenant, ils parlent.
Maintenant, ils parlent et on les laisse parler, bien que, effectivement, cette terrible affaire contre la liberté d'expression, au fond, que sont les réseaux sociaux, sont tout de même...
Oui et non, alors on pourra en parler longuement. Moi, je mets un gros bémol, parce que je trouve que les réseaux sociaux, vous savez, la liberté d'expression, au contraire, elle est aussi dans les réseaux sociaux, où il y a le meilleur et le pire.
Il y a le meilleur et le pire, je vous suis.
Mais vous savez qu'en fait, aujourd'hui, il y a toute une presse mainstream qui ne dit pas les choses... pour des tas de raisons. Et dans les réseaux sociaux, vous avez des pépites dans cet univers,
oui, c'est
vraiment.
Vrai. Non, c'est vrai. Donc, il ne faut pas être totalement négatif, je suis d'accord avec vous. On a tendance à regarder à regarder ce qui va contre la liberté d'expression, qu'il y a tout de même des insultes, des injures, des menaces.
Mais vous savez, il y a pire, juste un mot là-dessus, c'est qu'il y a le mensonge par omission. N'oubliez pas l'omerta.
Je suis tout à fait d'accord.
Et en tout cas, vous allez rester avec nous, Michel Herman, on va continuer. Mais la liberté, disons une chose, est une chose trop précieuse pour être laissée aux politiques et pour que le citoyen ne prenne pas la responsabilité de sa liberté.
Je suis absolument d'accord avec vous. La liberté, c'est un sentiment personnel. On est libre lorsqu'on a l'impression que nos actes, nos actions représentent, expriment notre personnalité.
Eh bien, restez avec nous tous, en tout cas avec André Berkoff, qui revient dans quelques instants sur Sud Radio en compagnie de son invité, Michel Herman, auteur de ce livre « Aimons-nous encore la liberté ?» C'est publié chez Plomb, 0826-300-300. Vous nous appelez, vous réagissez aux sujets qui ont été abordés dans l'émission. On se retrouve dans quelques instants pour en parler avec vous sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Eh bien, la liberté, nous, ici, on la pratique. Nous sommes de grands pratiquants de la liberté et on tâchera de le rester. Et avec Michel Herman, l'auteur de « Aimons-nous encore la liberté », on attend les auditeurs de Sud Radio.
0-826-300-300, c'est le numéro qu'a composé Sylvain.
Bonjour Sylvain.
Allô, bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Je voulais aborder le problème de l'immigration.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est 130 000 personnes réfugiées, candidats réfugiés, dont 95% vont rester. En plus, il y a ceux dont vous parliez tout à l'heure. Et tous ces gens, à un moment donné, quand ils seront régularisés, ils auront le droit de faire venir leur famille par le regroupement familial.
Oui, c'est exact.
Et ce regroupement familial amènera d'autres regroupements familiaux en plus, par le biais des alliances, etc. Donc, pour une personne qui rentre, on peut dire qu'il y en aura peut-être 10 ensuite qui légalement pourront arriver. Donc, 132 000, c'est peut-être 1 million après. Donc je voulais parler de ça. Donc le coût que ça va coûter par rapport pour chaque personne. Hein, c'est donc pour 130 000 personnes, si elles touchent 1 000 euros par mois en diverses prestations, c'est déjà 1,3 milliard. Et ensuite, il y a aussi, je me demande si tout ceci, parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a Martin Schulz, il y a Peter Sutherland, ancien haut-commissaire aux migrations auprès de l'ONU.
Oui, vous parlez de l'Union européenne, là.
Martin Schulz, lui, il était auprès de l'ONU.
Ah oui, d'accord.
Peter Sutherland. Schulz, lui, était auprès de l'Union européenne.
Oui, c'est ça.
Mais ces gens-là ont en commun d'avoir dit qu'il fallait entre 80 et 120 millions de migrants en Europe. Mmh. Et Peter Sutherland, lui, il avait précisé que, ce sont exactement ces termes, il faut casser l'homogénéité des pays européens. Mmh. Par quel biais ? Par l'immigration. Mmh. Il faut entre 80 et 120 millions de migrants en Europe. Et le prétexte, le renouvellement des générations. Mmh. Voilà.
Oui, à cause de la démographie, et puis certains avaient dit les retraites, etc. Le principal théoricien de cela étant George Soros, le multimilliardaire bien connu. Sylvain, non, effectivement, c'est un problème extrêmement, extrêmement préoccupant, extrêmement grave. Certains répondent par une véritable politique démographique. D'autres, effectivement, on en a parlé ici, ont au contraire entravé cela, y compris chez certains de nos gouvernants. C'est un vrai problème. Il ne faut pas le traiter ni par le rejet absolu, ni effectivement par la tolérance absolue et par la politique de la passoire. C'est très compliqué et merci en tout cas d'être intervenu là-dessus.
Merci Sylvain. Tout de suite, on retrouve Laurent. Bonjour à vous, Laurent.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Berkoff et Monsieur Armand.
Bonjour.
Monsieur Armand aussi. Voilà, je voulais rebondir simplement sur la liberté. Je pense que la liberté va reculer petit à petit à cause du multiculturalisme, qui aussi est une résultante de l'immigration massive, hein, qui est en devenir, là ce n'est pas une légende, donc vous en parlez suffisamment. Et nous allons être obligés de faire de plus en plus attention à nos réactions et à notre esprit critique, hein, surtout envers l'islam, hein, qui est une religion qui ne tolère pas beaucoup de critiques quand même, hein, globalement. Il faut être dans leur sens ou rien. Bon, c'est une manière de voir les choses. Alors que moi, si on critique le pape et les catholiques, pourquoi pas, hein. Il faut que les arguments soient cohérents et pourquoi pas.
Oui,
pourquoi
vous
pas.
Êtes pour la liberté, effectivement, de discussion et d'expression, bien sûr.
Ah, absolument, absolument. Mmh. Et donc, notre liberté va reculer à cause de ça. Nous l'avons vu depuis Charlie. Hein, donc,
c'est clair.
C'est clair. Bon, mais les solutions, c'est aux politiciens de prendre des initiatives fermes maintenant. Hein.
Alors justement, Michel Herrmann, est-ce que le multiculturalisme n'a pas joué un rôle dans cette espèce d'autocensure ou en tout cas de régression, faut le dire, d'une certaine liberté, au moins la liberté d'expression?
Oui, absolument. Je crois que c'est effectivement un des phénomènes sociétaux qui joue un rôle important et que, comme le vient de dire l'auditeur Laurent, je crois. C'est aux politiques de prendre des décisions. Nous sommes à un moment critique. Il faut que maintenant, il y ait un certain nombre de dispositions qui soient des dispositions politiques pour arriver à réguler le vivre
politique
ensemble.
Politique et judiciaire, peut-être, ou pas?
Alors, judiciaire, vous pensez à quoi
Non, judiciaire, de savoir quelles sanctions par rapport à tel, par exemple, tel tentative de censure. Vous avez vu ce qui s'est passé, vous êtes mieux placé que moi, vous avez vu Sylvia Nagasinski, qui ne peut pas parler à la faculté de Bordeaux, même François Hollande, dont on a déchiré les livres là, ça et là, tel endroit où on dit non, récemment, le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles et Charles Consigny à Sciences Po Lille ont été interdits de discussion. Il y a quand même quelque chose là.
Oui, il y a quelque chose qui se passe. Alors après le problème, il ne faut toucher aux lois qu'avec prudence. Hein,
je suis d'accord.
Bon, donc,
mais qu'est-ce qu'on
fond,
fait par rapport à ça? Alors, vous voyez, voilà,
je pense que voilà, l'université. Oui, j'ai entendu parler malheureusement d'autres interdictions à l'université. C'est assez terrible. Il y a un an ou deux encore, ça n'existait pas. Donc c'est quelque chose, moi en tant qu'universitaire, je ressens ça encore une fois avec beaucoup, beaucoup de tristesse. Mais je crois que l'arsenal est dans la loi. Hein, donc oui. À mon avis, il faut peut-être réagir.
Les lois, quoi,
il suffit, à mon avis, il suffit d'appliquer
les lois. Mais il faut que
les
politiques, si je comprends bien, je parle aussi aux philosophes, bien sûr, et d'abord aux philosophes, que les politiques aient la colonne vertébrale voilà, d'appliquer les choses.
La liberté, c'est une affaire de courage.
Hein, voilà.
Sartre disait que la liberté est un fardeau et on a l'impression que la décision courageuse pour les politiques, depuis, c'est pas nouveau, hein, c'est pas simplement dû à l'époque actuelle, bien que cette décision politique, ce courage politique n'est pas la vertu essentielle actuelle. Je crois qu'effectivement, il y a une affaire de courage. Alors, quand je pense à l'intervention de l'État, je pense qu'il faudrait limiter la possibilité, si vous voulez, à des associations d'être des personnes morales.
Ah oui, c'est
et
ça.
De pouvoir porter plainte.
Ouais.
Je pense qu'il faudrait revoir ce droit-là.
C'est exact. Que n'importe quelle association ne puisse pas porter plainte, ouais, tout de suite être entendue, etc.
Tout de suite être entendue, reprise par les médias, et au fond, on condamne publiquement les individus, alors que souvent, il s'est pas passé grand-chose du point de vue du droit, finalement, du point de vue de la loi, ou alors, là, on entre, évidemment, dans la liberté d'expression. La liberté d'expression, on la célèbre, mais on ne fait que au fond, la restreindre, la réduire depuis une bonne quinzaine d'années.
Comme disait Voltaire à propos d'une... on se salue, mais on ne se parle pas.
Exactement.
On remercie Laurent d'avoir relancé le débat sur la liberté. 0826-300-300, on retrouve Françoise.
Oui, bonjour.
Bonjour Françoise.
Bonjour à tous les trois. Je vous appelle de Bordeaux.
Oui.
C'est par rapport au comportement de notre chef de l'État en Israël.
Oui.
En fait, je suis scandalisée parce que je trouve que c'est plutôt un comportement de voyou. Mmh. De réagir comme ça. Parce que s'il lui était arrivé quelque chose, moi je pense que Israël fait tout ce qu'il peut par rapport à la sécurité, c'est pas le cas de la France. Pardon. Et donc, s'il lui était arrivé quelque chose, en fait, comment le pays
aurait réagi, qu'est-ce qui serait passé
ça, ouais. Pardon.
Voilà. Je vous en prie.
Et donc, en fait.
Oui, ce que vous dites, en fait, c'est qu'il n'avait pas à réagir comme ça parce que vous dites, vous, que le service de sécurité était là pour justement assurer sa sécurité.
Absolument. Et puis surtout, il n'était pas venu pour s'agiter.
Ouais.
Il était venu pour une commémoration très importante.
Oui, ouais, pour la libération d'Auschwitz.
On se tient, je veux dire.
Oui, je comprends.
Surtout qu'en fait, comme il n'est pas fichu de résoudre tous nos problèmes depuis plus d'un an...
Vous estimez qu'il en crée ailleurs, quoi, c'est ça, quelque part.
Oui, et puis qu'en fait, il était à côté de la plaque.
Ouais.
Et donc, je trouve que ça fait honte.
Françoise, on vous a entendu, écoutez, vous avez exprimé voilà votre opinion et il faut le faire tout le temps.
Et tout c'est bien fort, buvez un grand verre d'eau, nous aussi ça nous arrive Françoise et on sait que c'est pas drôle. En tout cas merci d'être intervenu sur Sud Radio. On retrouve Jean-Paul au 0826-300-300.
Oui, bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour André, bonjour à vos invités. Voilà, ce que je voudrais évoquer c'est le cas de cette jeune fille Greta.
Oui.
Je vois que depuis des mois, tous les chefs d'État, à part Trump, lui déroulent un tapis rouge, sont prêts à se genouiller devant elle comme si c'était la nouvelle Madone.
Ouais.
Et je trouve ça d'une faiblesse abominable. Comment vous dire, je ne comprends pas qu'on ait rien à lui opposer, si ce n'est Trump qui, à son habitude,
Non, mais vous dites qu'en fait, les chefs d'État s'inclinent sans poser les questions qu'il faut par rapport à ce qu'elle défend.
Tout à fait. Elle arrive là, elle a 16 ans, elle donne la fessée à tout le monde, chacun s'en délecte et ne trouve rien à dire, comme si c'était normal, alors qu'on sait très bien maintenant, la fille de qui elle est. On connaît son argumentation, et puis ça va avec le reste, ça va avec cette faiblesse généralisée dans la société qui fait qu'il n'y a plus aucune cohésion, et ça date depuis des années, ce n'est pas que Macron le responsable.
Bien sûr.
Voilà. C'est comme la montée de l'islamisme, ça date déjà depuis Sarkozy et ainsi de suite.
Et même avant,
qui,
oui.
Et même avant, qui devait faire et qui n'a rien fait, malheureusement. Voilà, maintenant, on est dans cette situation. Mmh. Et ce que je crains, c'est que s'il n'y a pas une personne charismatique un peu qui sort du lot, mmh, et qui ait le courage de dire maintenant stop à certaines choses, eh bien, on va se retrouver dans une situation dramatique dans ce pays.
Ouais,
dramatique.
Jean-Paul, justement, je voudrais demander à Michel Herman, l'histoire Greta, elle n'est pas aussi une illustration quand même, parce que quand Jean-Paul dit effectivement, tout le monde s'incline, alors, on peut être pour, on peut être contre, mais effectivement, ce qui est frappant, il n'y a pas d'argument, on dit, ah là, c'est la Madone, c'est Greta, surtout, laissez pas parler, merveilleux, c'est jeune et tout ça. Et là aussi, il y a quelque chose de...
Oui, alors là, il y a quelque chose, disons, qui moi m'a frappé. Je crois qu'elle met en scène une émotion éminemment contemporaine qui est la colère. Je me suis intéressé à la colère dans le livre précédent.
Oui.
Et je crois que l'émotion ou l'humeur, ou les humeurs contemporaines, se retrouvent beaucoup dans les accès colériques. Et elle met prodigieusement, merveilleusement, ça en scène. Si bien que les gens se trouvent en quelque sorte démunis pour lui répondre.
Ah ouais.
Parce que soit à la colère...
Parce que c'est la colère, on dit comment qu'on ne répond pas à la colère.
On ne peut pas répondre à la colère, on ne peut que la subir, on ne peut que la... Bon, hors de cette colère, Greta Thunberg en a fait une passion, en quelque sorte, elle devient une passionnariat. Voilà. Donc je crois qu'elle est extrêmement subtile. Son discours est extrêmement subtil.
Surtout qu'il est encadré, on sait très bien qu'elle n'est pas toute seule.
Évidemment, c'est pas elle qui voilà. Ouais. Donc... Ça rend, si vous voulez, il est difficile aujourd'hui, regardez comment politiquement il est difficile de répondre aux colères. La colère des gilets jaunes, la colère des grévistes, etc. Il est extrêmement difficile. Soit les hommes politiques ou l'État ont une réaction frontale, et donc là il y a une sorte de viralité à ce moment-là de la colère, soit, en quelque sorte, on attend que ça passe. Donc, savoir, regardez aussi dans un autre registre, Jean-Luc Mélenchon, formidable metteur en scène de la colère politique et des humeurs politiques, beaucoup plus que des idées. Et c'est ce qui se passe, je crois, avec Greta Thunberg.
Merci en tout cas, Michel Herman, et je crois que nous allons nous attacher à aimer de plus en plus la liberté, parce qu'on n'a pas le choix.
Merci à vous. Je rappelle la référence de votre ouvrage que tous nos auditeurs peuvent se procurer dans les librairies. Aimons-nous encore la liberté, c'est publié chez Plon. Merci à vous, Michel Herman.
Merci beaucoup.
André Berkoff. On retrouve demain à midi, de bonne humeur, bon pied, bon oeil, comme toujours, sur Sud Radio, de midi à 13h, comme chaque vendredi. La journée continue sur Sud Radio. Dans quelques instants, nous retrouvons Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, Jacques Pessis reçoit Isabelle Mergaud. Belle journée à vous sur Sud Radio.